RFI 15h à Paris, 19h à Rangoon. Juliette Pietraszewski pour le journal. Bonjour Juliette.
Bonjour Paul, bonjour à tous. À la une de ce journal, plus de 3300 morts en Birmanie. Voilà le nouveau bilan des autorités, plus d'une semaine après le séisme dévastateur. Et alors que la guerre se poursuit aussi dans le pays, l'ONU se dit consternée et demande l'arrêt immédiat des opérations pour venir en aide à la population. Depuis ce matin, des produits du monde entier surtaxés de 10% à l'entrée des États-Unis, conséquence des décisions du président américain Donald Trump, qui lance là le début de sa guerre commerciale. Les Européens s'organisent pour préparer une riposte en deux volets, en instaurant notamment une hausse de 50% sur le whisky américain. Mais Donald Trump a déjà promis de répondre. En Haïti, les forces de l'ordre n'arrivent toujours pas à reprendre le contrôle total de la ville de Mirbalay, plus de 72 heures après l'offensive des gangs armés. Et puis le cinéma africain est à l'honneur à Paris ce week-end avec les 3e African Cinema Days où la Côte d'Ivoire tient une place de choix. Plus d'une semaine après le séisme qui a frappé la Birmanie, c'est un bilan en hausse annoncé par les médias d'État birman aujourd'hui. Plus de 3300 morts, 4500 blessés, 220 personnes toujours portées disparues. L'aide internationale se poursuit. La marine indienne a livré aujourd'hui des centaines de tonnes d'aide alimentaire à la Birmanie au lendemain d'une rencontre entre le premier ministre indien Narendra Modi et le chef de la junte militaire. Reste que la guerre civile qui frappe la Birmanie se poursuit elle aussi. Guerre depuis le coup d'État de la junte militaire au pouvoir il y a 4 ans. L'ONU accuse la junte d'avoir fait plusieurs attaques contre ses opposants après le séisme qui a ravagé le pays. L'organisation demande l'arrêt immédiat des opérations pour se concentrer sur l'aide aux sinistrés. À Genève, Jérémy Lanche.
Depuis vendredi 28 mars, jour du séisme, la junte a mené au moins 61 opérations militaires. Certaines ont eu lieu quelques heures seulement après le tremblement de terre. Des frappes aériennes avec des avions, mais aussi, c'est devenu une spécialité de la junte, avec des parapentes motorisées, comme l'explique James Rodever du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
En fait, ce sont des soldats équipés de parapentes avec des sortes de grands ventilateurs. Ils utilisent ça comme moteur pour survoler leurs cibles sur lesquelles ils lancent des bombes directement à la main. Le problème, c'est que ça ne fait aucun bruit, donc les gens ne savent pas quand ils arrivent. La plupart du temps, les attaques visent des civils pour terroriser la population et les forcer à fuir.
Et le cessez-le-feu avec les groupes rebelles n'y a rien changé. Au moins 16 attaques ont eu lieu depuis son annonce. Larguer des bombes après un Le séisme est tout simplement ahurissant, dit encore le rapporteur spécial des Nations Unies pour la Birmanie, Tom Andrews. L'ONU rapporte même que des civils venus aider aux opérations de secours ont été recrutés de force par les militaires. Pendant ce temps-là, l'aide parvient toujours au compte-gouttes, dans un pays largement fermé aux organisations internationales jusqu'ici, et où une bonne partie des sinistrés sont dans des territoires qui échappent au contrôle de la junte. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Et de son côté, Washington a annoncé hier une augmentation de son aide financière initiale à la Birmanie avec un budget global de 9 millions de dollars. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont surtout au centre de l'attention et des critiques alors que la première salve des droits de douane annoncée par Donald Trump cette semaine est entrée en vigueur ce samedi. Plus 10% sur la majeure partie des produits de près de 100 pays alors que l'acier, l'aluminium et les voitures sont déjà touchés par une hausse de 25%. Et ce n'est pas fini. Le 9 avril, c'est l'instauration de taxes bien plus importantes pour les pays qui exportent plus vers les États-Unis qu'ils n'importent de produits américains. Plus 24% pour le Japon, plus 54% pour la Chine, plus 20% pour l'Union européenne. Les Européens qui s'organisent pour préparer une riposte en deux volets, en instaurant notamment une hausse de 50% sur le whisky américain. Donald Trump a déjà promis de répondre avec une augmentation de 200% sur le champagne et les vins européens. Conséquence, chez les professionnels du secteur, c'est la consternation. Ignacio Sanchez est le secrétaire général du Comité européen du vin.
Pour notre secteur, les États-Unis, c'est fondamental. C'est notre premier marché d'exportation. Ça représente 28% de nos exportations en valeur. Une bouteille sur 4 part aux États-Unis. Nous sommes extrêmement inquiets. Nous avons l'impression d'être pris en otage au milieu de la dispute entre les États-Unis et l'Union européenne au sujet de l'acier et de l'aluminium. Et en plus, on va avoir ces 20% de taxes. Un secteur comme le nôtre ne peut pas pas se délocaliser. Nous devons produire en Europe pour exporter aux États-Unis. La question n'est pas d'investir ou pas aux États-Unis. Ce sont nos exploitations qui sont menacées.
Des propos recueillis par Paola Harissa. Et sur le sol américain, le réseau social chinois TikTok va-t-il être vendu ? Donald Trump a annoncé hier qu'il reportait de 75 jours supplémentaires la date limite fixée pour la vente. Un premier report avait déjà été annoncé fin janvier par le président américain suite à l'entrée en vigueur d'une loi votée en 2024 par le Congrès et qui impose à ByteDance, la maison mère de TikTok, d'en céder le contrôle sous peine d'interdiction aux États-Unis. L'échéance est désormais déplacée au 19 juin prochain. Le texte souhaitait empêcher l'accès à des données personnelles d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis aux autorités chinoises et empêcher d'influencer l'opinion américaine via l'algorithme du réseau. RFI, il est 9h05 à Port-au-Prince, en Haïti, plus de 72 heures après l'offensive des gangs armés à Mirbalais. Les forces de l'ordre n'arrivent toujours pas à reprendre le contrôle total de cette ville. Les bandits ont semé la terreur et incendié plusieurs maisons, y compris celles d'anciens parlementaires. Plusieurs milliers de familles ont dû abandonner leur demeure face à la violence des gangs pour se réfugier loin du centre-ville de Mirbalais. Notre correspondant Peterson Luxama a recueilli les témoignages de certains déplacés.
L'attaque des gangs armés à Mirbalais plonge des habitants de cette ville dans le désarroi. Des maisons incendiées, des familles contraintes de fuir sous les balles, la ville perd son vrai visage en un temps éclair, témoigne Fonfon, journaliste basé à Mirbalais.
La ville est littéralement détruite, c'est une ville en détresse, on lance régulièrement des appels à l'aide. Beaucoup de personnes sont portées disparues, leurs familles sont sans nouvelles. On ne sait pas s'ils sont restés coincés chez eux ou s'ils ont été tués quelque part.
Parmi les déplacés, certains ne sont pas originaires de Mirbalais. Patrick, venu de Port-au-Prince depuis plusieurs mois pour se faire soigner à l'hôpital universitaire de Mirbalais, dit avoir vécu l'une des expériences les plus marquantes de sa vie.
C'était vraiment terrible. Je n'avais jamais vécu une chose pareille. J'ai passé beaucoup de temps à Port-au-Prince. J'y ai vu des choses, mais ce qui s'est passé à Mirbalais, c'est au-dessus de tout. Pour moi, c'est une première.
Si certaines familles ont eu le temps de récupérer quelques effets personnels de leur maison avant que les bandits passent à l'action, ce n'est pas le cas de Johnny, dont la maison a été incendiée.
Tout s'est passé très vite. J'ai juste entendu des gens crier « Voilà les bandits !» Puis des maisons ont commencé à brûler. Moi et ma famille, on n'a rien pu emporter. Heureusement, ma grand-mère a eu le réflexe de prendre quelques papiers importants avant qu'on quitte les lieux en courant.
Que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, les gangs armés continuent de défier les autorités en place qui, jusqu'à présent, n'arrivent toujours pas à trouver la meilleure formule pour faire revenir la paix dans le pays. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et dans l'actualité culturelle, un deuil dans le monde de la musique. On a appris le décès d'Amadou, du légendaire duo de musiciens Amadou et Mariam. Ils avaient connu un succès planétaire en 2004 avec un dimanche à Bamako. Amadou est décédé à Bamako à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie. Et puis le cinéma africain est à l'honneur à Paris ce week-end. L'association Cinewax avec la Cinémathèque Afrique de l'Institut français organise à la machine du Moulin Rouge les 3e African Cinema Days, une célébration de la culture africaine par le biais du 7e art. Le pays à l'honneur cette année, c'est la Côte d'Ivoire, Sophie Dorlotin.
On m'a confié à vous pour que je fasse des études et non pour être votre boniche. Maintenant la cuisine, le ménage, c'est fini.
C'est Balle Poussière d'Henri Duparc qui a été choisi pour inaugurer ses 3e African Cinema Days. Un film conservé et restauré par la Cinémathèque Afrique de l'Institut français.
Balle Poussière, c'est un film qui date des années 80-90, mais qui est toujours d'actualité.
Aïssa Diaby, chef de projet à la Cinémathèque Afrique.
Les films de la Cinémathèque Afrique tournent dans le réseau des instituts français dans le monde. Et Balle Poussière, c'est l'un des films qui est le plus demandé, parce que c'est un film déjà qui est drôle, qui est accessible aussi à tous, et qui parle encore des droits des femmes. Et c'est souvent un support intéressant pour pouvoir avoir des débats par la suite dessus.
Justement, il y aura plusieurs débats sur le cinéma passé et futur dans le cadre de ces African Cinema Days.
Si on restaure pas ces films de patrimoine, ils sont voués à disparaître. Et l'objectif, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce qu'on va laisser à la prochaine génération de cinéastes, mais aussi de jeunes Africains. Et puis, on aura une seconde table ronde sur l'industrie du cinéma aujourd'hui, de manière générale, en Côte d'Ivoire.
Outre des projections de films et des débats, l'événement parisien programme un atelier de contes et en clôture dimanche soir, un grand concert de May Way.
Et avant de terminer ce journal, sachez que nous diffusons le concert de Balaké Sissoko et Pierce Faccini dans Musique du Monde ce samedi à 22h10, heure de Paris, 20h10, temps universel.